Il est 18h sur France Culture. 18h ou presque, quelques secondes encore, mais c'est tout de même l'heure de vous retrouver, Margot Delpierre, pour le journal. Bonsoir Margot.
Bonsoir. La campagne d'information a commencé dans la jungle de Calais. Des représentants de l'État expliquent aux migrants comment va se dérouler le démantèlement du camp qui aura lieu dès demain matin. Le Parti socialiste d'Espagne donne son feu vert à Mariano Rajoy pour la création d'un gouvernement. Les socialistes n'ont pas souhaité continuer le blocage politique. C'est la fin de 10 mois de paralysie. Les patrons du high-tech soutiennent Hillary Clinton. Les PDG d'Amazon, Apple ou encore Facebook se rallient derrière la candidate démocrate à la présidence des États-Unis. Et après le journal, à 18h15, on vous retrouve Raphaël Bourgois pour votre émission dimanche et après.
Oui, pour le malaise dans la police, une histoire de violence avec Stanislas Godon, qui est secrétaire général adjoint du syndicat Alliance, et Sophie Baudy-Gendreau, qui est politologue. Puis à 18h45, on reviendra donc sur l'échec programmé du CETA avec l'économiste Frédéric Farah.
Peu à peu, les migrants sont officiellement informés par l'État du démantèlement de la jungle de Calais. La préfecture avait déjà placardé vendredi l'arrêté d'expulsion, mais cet après-midi, l'information s'est propagée. Entre 6 000 et 8 000 migrants vivent dans le camp. À partir de demain matin, 8h, ils vont devoir plier bagages et rejoindre des centres d'accueil et d'orientation. Certains s'inquiètent de ne pas savoir où ils vont se retrouver. D'autres ont déjà décidé qu'ils ne partiraient pas. Le reportage à Calais de Camille Marigot.
Assis devant une échoppe, Daniel observe le camp qui se réveille petit à petit en fumant une cigarette. Arrivé d'Érythrée il y a 4 mois, il a bien essayé plusieurs fois de passer la frontière, sans succès. Lundi, il montera dans un bus, mais compte bien revenir tenter sa chance pour retrouver sa famille en Angleterre.
Oui, je crois que c'est mieux de quitter le camp. Avec tous les policiers, je ne veux pas avoir de problème en fait. Mais je n'ai eu aucune information sur ce qui va se passer, où je vais aller. Et du coup, je suis plutôt perdu, parce qu'il y a ma famille. C'est ça qui me fait rester dans la jungle aussi. Donc dès que je pourrai, je réessayerai de traverser.
Un peu plus loin, sous une tente, Artan et ses voisins prennent le thé autour du feu. Et le jeune Soudanais est formel, lundi pas question de monter dans les bus.
Je reste ici. L'Angleterre reste ma destination. Je veux quitter la France parce que la situation n'est pas bonne ici. Si on me propose une vie correcte, d'accord, je reste. Mais j'ai déjà vécu en ville et j'ai peur de retourner dormir dans une gare ou dans la rue.
Ce que redoutent les associations, c'est la dispersion des migrants qui refusent de rester en France, voire les représailles des autorités. Le président de l'auberge des migrants, Christian Salomé, craint même ce qu'il qualifie de chasse à l'homme dans les jours qui suivront le démantèlement.
Camille, Marigot, pendant ce temps, aujourd'hui, 2 000 personnes ont gravi le Mont Mézin en Haute-Loire en soutien aux réfugiés que Laurent Wauquiez refuse d'accueillir en Auvergne-Rhône-Alpes. Un clin d'œil au président de région qui a pour habitude de grimper au sommet du mont à chaque rentrée politique. 1 700 migrants devraient être dispersés en Auvergne-Rhône-Alpes. Après 6 soirées consécutives de manifestations, les policiers se sont encore réunis aujourd'hui, cette fois en plein jour et à Marseille, c'était cet après-midi sur le Vieux-Port. Ils étaient 200 à réclamer plus de moyens et d'effectifs. Le gouvernement, depuis plusieurs jours, tente de rassurer les forces de l'ordre. Rien n'y fait. Le mouvement échappe même aux syndicats. Il devrait d'ailleurs s'entretenir en début de semaine avec le président de la République pour tenter d'apaiser la situation. Mais pour le spécialiste de la fonction publique, Luc Rouban, chercheur au CEVIPOF, cette colère des policiers est le résultat du délitement de l'autorité de l'État.
Ce qui se joue derrière tout ça, c'est la remise en cause directe de l'autorité de la République. C'est ce que vivent les policiers au quotidien. Et dans le fond, dans cette affaire, je pense que c'est ça qui, au-delà, si vous voulez, des revendications en matière d'effectifs, de matériel, de conditions de travail, etc., c'est surtout le sentiment qu'ils sont devenus un peu les pompiers du social. C'était déjà le cas depuis longtemps, mais là, ça devient dramatique. Et que dans le fond, ils sont sur le front, en quelque sorte. Et qu'on les entend pas, qu'ils sont un petit peu abandonnés. Et que, aux yeux d'une partie croissante de la population qui rejette la République, aussi bien pour des raisons communautaires que pour des raisons tout simplement sociales, ils deviennent des cibles. Donc en fait, voilà, ils se sentent un petit peu dans une situation où tout repose sur eux. Donc ils se sentent vulnérables. Dans le fond, c'est aussi une demande de protection, de prise en compte.
La situation est inquiétante, selon vous ? Préoccupante ?
Préoccupante, oui, certainement. Certainement parce que ça crée une déstabilisation politique, et une modification du paysage politique tout à fait conséquente. Là, on est quand même à un tournant historique. On n'avait jamais vu des niveaux d'intention de vote pour le Front National aussi élevés dans les 3 fonctions publiques et dans les différents secteurs de la fonction publique, y compris chez les cadres d'ailleurs, sur le plan historique. Donc on est vraiment quand même effectivement à un tournant.
Le chercheur au CEVIPOF, spécialiste de la fonction publique, Luc Rouban, il répondait à Stéphane Robert. Il y a exactement un an, 43 personnes sont mortes dans une collision entre un camion et un autocar. C'était à Puisseguin en Gironde. Des hommages ont eu lieu aujourd'hui à Puisseguin et dans la commune voisine de Petit-Palais. Il réunissait des familles, des victimes et des élus. Le chef de l'État, François Hollande, a exprimé son entière solidarité. L'enquête, elle, est loin d'être terminée. C'est la fin de 10 mois de paralysie politique en Espagne. Le Parti socialiste du pays a décidé cet après-midi de ne pas faire obstacle à Mariano Rajoy. Celui qui est au pouvoir depuis 2011 pourra former un prochain gouvernement. Le parti a conclu que renvoyer les Espagnols aux urnes pour la troisième fois en un an aurait été nuisible aux intérêts de l'Espagne. Mais ce n'est pas l'avis des militants socialistes. À Madrid, Marie-Hélène Ballestero.
Sans surprise, c'est l'abstention qui l'a emporté au cours de ce comité fédéral historique du Parti Socialiste Espagnol. Les socialistes vont donc laisser Mariano Rajoy former un gouvernement après 300 jours de blocage politique. C'est une décision historique et sûrement la plus difficile que le PSOE a prise ces 40 dernières années. Une décision que ne partagent pas de nombreux délégués socialistes, tout comme les militants qui étaient aujourd'hui devant le siège du Parti Socialiste à Madrid et qui criaient leur colère.
No de Rajoy, mi voto es el PSOE.
Mon vote n'est pas pour Rajoy, mais pour le PSOE. Les militants sont outrés par la décision prise aujourd'hui par leur parti. C'est le cas d'Encarna.
Ils ont trahi notre parti, notre vote et notre idéologie. Je vais attendre un peu, mais si ça continue comme ça, je vais cesser de militer. Ce serait dommage, car le socialisme doit sortir de ce merdier dans lequel ils nous ont fourrés. Toute ma vie, j'ai fait partie du PSOE. Et il ne peut pas mourir. Mais actuellement, il y a un divorce très clair entre ceux qui, sans scrupules, dirigent le parti et les militants qui sont en train de le soutenir et de le faire vivre.
L'Espagne va donc sortir du blocage politique, mais le PSOE va avoir beaucoup de mal à sortir de cette crise.
Le reportage de Marie-Hélène Ballestero. La Wallonie, la moitié sud de la Belgique, n'est toujours pas prête à accepter l'accord de libre-échange avec le Canada, le CETA. Un sommet est pourtant prévu à Bruxelles jeudi en présence du Premier ministre canadien Justin Trudeau pour la signature. Mais dans ces conditions, rien n'est sûr. Alors l'Union européenne lance un ultimatum au chef du gouvernement wallon. La Belgique a jusqu'à demain soir pour accorder ses violons, Lakshmi Lotha.
Pas question de faire venir le Premier ministre canadien pour rien. Demain, dans l'après-midi, les présidents de la Commission et du Conseil européen auront une conversation avec Charles Michel, le Premier ministre belge. Jean-Claude Juncker et Donald Tusk lui demanderont si la Belgique est finalement prête à signer l'accord. Ensuite, c'est avec Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, qu'ils communiqueront par téléphone. C'est à ce moment-là, d'un commun accord, dit-on, de sources diplomatiques européennes, que la décision du maintien ou non du sommet UE-Canada jeudi prochain sera prise. La Commission européenne affirme qu'il ne s'agit pas là d'un ultimatum. Ce n'est pas la manière de faire de Jean-Claude Juncker, précise un porte-parole de l'instance, même si bien sûr nous espérons un règlement prochain. Face à cette exigence de réponse d'ici demain, le coprésident du parti écolo, qui soutient la contestation de la Wallonie, déclare « Ce n'est pas le moment de flancher, il ne faut pas céder ». Le président du Parti socialiste belge, Elodie Rupo, évoque lui des pressions invraisemblables sur Paul Magnette, le chef du gouvernement wallon. Le PS a demandé hier un délai de 2 mois pour pouvoir discuter. Il reste finalement quelques heures de discussion possible. Interrogé sur les conséquences d'une éventuelle annulation du sommet de jeudi, la commission préfère garder le silence.
Lakshmi Lotha à Bruxelles. En Afghanistan, la culture du pavot, matière première de l'opium, a augmenté de 10% par rapport à l'année dernière. L'opium est aujourd'hui le produit numéro 1 de la production afghane. Et pour Michel Koutouzi, spécialiste de la géopolitique de la drogue, cela ne fait aucun doute. Depuis le départ des talibans, l'Afghanistan est une véritable plaque tournante.
Aujourd'hui, l'opium est devenu le produit numéro 1 de la production afghane. Pendant très longtemps, l'opium était cueilli en Afghanistan, mais conditionné ou transformé en héroïne au dehors de l'Afghanistan, pris en charge par les mafias turques, les mafias pakistanaises, les mafias ouzbèques, russes. Tandis que maintenant, l'Afghanistan est devenu aussi un très grand producteur d'héroïne. Et les talibans eux-mêmes, pour devenir de sorte protecteurs de la paysannerie afghane, ils ont pris leur pourcentage sur la production. Ce n'est pas les seuls qui profitent. Les grands producteurs et les grands profiteurs de l'opium afghan, ce sont les seigneurs de la guerre, ce sont les chefs de clan, c'est-à-dire ceux-là même qui siègent au gouvernement afghan d'aujourd'hui. En fin de compte, l'opium afghan, tandis qu'il touchait essentiellement l'Europe occidentale, Aujourd'hui, en tant que Roumanie, ils touchent toutes les parties du monde. Une des raisons pour lesquelles on était allé, c'était pour éradiquer l'opium. Aujourd'hui, on n'est quasiment plus là. Le pays est devenu le premier producteur et exportateur du produit fini.
L'historien Michel Koutouzi, spécialiste de la géopolitique de la drogue. La bataille de Mossoul se poursuit dans le nord de l'Irak. Les Kurdes et l'armée irakienne tentent de reprendre peu à peu le contrôle de cette ville détenue par le groupe État islamique. Le Premier ministre turc affirme ce soir que l'armée a frappé des positions des djihadistes à Bachika, près de Mossoul. L'offensive pourrait d'ailleurs s'accélérer sur plusieurs fronts. Le secrétaire américain à la défense, Ashton Carter, était en visite à Erbil, dans le Kurdistan irakien. Il veut lancer une opération pour isoler l'organisation État islamique à Raqqa dès que possible. Une opération qui aurait donc lieu en même temps que la bataille de Mossoul. Hillary Clinton ne s'en cache pas. La candidate démocrate à la Maison-Blanche ne veut pas seulement décrocher la présidence des États-Unis. Elle veut aussi gagner le Congrès. Il est pour l'instant aux mains des Républicains. L'ancienne première dame dit vouloir élire des démocrates à tous les niveaux. Une chose est sûre, elle pourra compter sur le soutien de la Silicon Valley. Les patrons de l'industrie technologique américaine ont choisi leur camp. Ils sont farouchement opposés à Donald Trump, le candidat républicain, Antoine Poitou.
Oui, cette semaine, c'est Jeff Bezos, le richissime patron d'Amazon, qui a confirmé son désir d'envoyer Donald Trump dans l'espace. Alors c'est évidemment une boutade, quoique Jeff Bezos, l'une des 5 plus grosses fortunes américaines, en a les moyens, puisqu'il est également le patron de Blue Origin, une société qui veut banaliser justement les voyages dans l'espace. Alors il faut dire qu'il y a un échange de bons procédés entre les deux hommes, puisque Trump a fait retirer leurs accréditations aux journalistes qui couvraient sa campagne pour le Washington Post, un journal détenu par Jeff Bezos. Cette sortie spatiale du PDG d'Amazon est surtout symptomatique du sentiment majoritairement partagé par les patrons de la Silicon Valley, à savoir une aversion pour le candidat du camp républicain. Cet été, dans une lettre ouverte des fondateurs d'Apple, de Twitter, de Wikipédia et d'eBay, il expliquait que l'élection de Donald Trump serait une catastrophe pour l'innovation. Eux se font les défenseurs d'un modèle ouvert à l'immigration, d'un modèle résolument tourné vers l'avenir et le progrès technologique, quand Donald Trump, selon eux, prendrait une politique rétrograde, voire réactionnaire. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a d'ailleurs appelé en avril dernier à construire des ponts plutôt que des murs. Sûrement une référence à celui qu'envisage de construire Trump à la frontière mexicaine.
Et est-ce que Hillary Clinton trouve grâce, elle, aux yeux de ses entrepreneurs ?
Ouais, mais c'est en quelque sorte un choix par défaut. Néanmoins, ça se concrétise en monnaie sonnante et trébuchante, puisque l'autre fondateur de Facebook, Dustin Moskovitz, a promis 20 millions de dollars à la candidate démocrate. Alors Donald Trump n'est pas complètement abandonné par les patrons des géants du web, en tout cas pas par Peter Thiel, le cofondateur de PayPal, qui a donné plus d'un million de dollars pour la campagne du Républicain.
Antoine Poitou, et d'après un dernier sondage d'ABC News et du Washington Post, Hillary Clinton aurait 12 points d'avance sur Donald Trump. Elle récolterait 50% des intentions de vote contre seulement 38% pour l'homme d'affaires. Plus de 100 détenus se sont évadés hier d'une prison haïtienne. Ils ont profité d'une mutinerie pour fuir. Un policier a été tué. D'après les premiers éléments de l'enquête, un gardien aurait oublié de fermer une porte pendant le repas des prisonniers. Les autorités n'ont pas donné plus de précisions sur le nombre d'évadés. La météo de votre lundi matin, c'est simple. Des nuages gris et de la pluie partout. Quelques éclaircies quand même du côté de Grenoble et Chambéry, ainsi qu'à Nice, Marseille et en Corse. Les températures iront de 9 degrés à Lille jusqu'à 23 à Ajaccio. L'après-midi, le soleil devrait revenir quand même sur tout le littoral français.